Bonjour à chacun, chacune. Bienvenue pour ce culte. Je vous laisse prendre place gentiment. Peut-être certains et certaines d'entre vous ont déjà regardé le film dont la bande-son vient de passer, de son nom Dead Poets Society, traduit en français par La Société des Poètes Disparus. Pour celles et ceux qui n'ont pas eu le privilège de le regarder, bon, déjà, c'est un film magnifique. Il suit l'histoire d'un jeune professeur de littérature qui s'appelle Monsieur Keating, et qui occupe un poste dans une école privée pour garçons extrêmement traditionnels. Son espoir à ce professeur, c'est de sortir les jeunes garçons le temps de son cours du carcan qu'on leur impose. Il comprend la littérature, non pas comme une discipline encadrée par des règles qu'on doit absolument suivre, mais comme un moyen de se reconnecter à soi, aux autres, à l'être humain, à la sensibilité, à l'art. Il débarrasse ces jeunes en pleine recherche de repères, des enjeux des pouvoirs que leurs parents, que les adultes leur imposent pour que, pendant quelques instants, ils puissent faire vivre leurs rêves. En bref, il dit non à la tradition pour laisser libre cours à la créativité et à la beauté humaine. Et vous savez, moi, ce professeur, bien que rôle fictif, bah, je l'admire. Et vous savez pourquoi je l'admire? Parce que pour moi, c'est la personnification même de l'image que je me suis faite de Jésus. Quand je suis un peu le parcours de Jésus, quand je lis ma Bible et que j'essaie de m'imaginer, de me projeter dans les situations dans lesquelles Jésus se trouve, il y a une chose qui me saute aux yeux. C'est cette ouverture. À combien de reprises est-ce que j'ai constaté comment Jésus y regarde la tradition à laquelle les pharisiens et les sadducéens s'attachent, avec le même regard qui n'est pas méprisant, mais critique que ce professeur? À combien de reprises est-on surpris par son rapport aux personnes différentes de lui, aux personnes marginales de la société? Et je vais conclure sur ces quelques mots pendant que l'équipe louange peut monter sur scène. Moi, vous savez, je suis au tout début de ma trajectoire de vie, mais je me dis que pour ce genre de questions, il n'y a pas besoin d'être dans une étape particulière. Donc, vous, quand vous projetez vers l'avenir, quand vous vous demandez sur quelle trajectoire continuer, avec quelle vision peut-être que vous avez eu rompre, est-ce que vous préférez ressembler à ces parents qui ont peur de perdre le peu de pouvoir et d'influence qu'ils ont sur les situations des autres individus? Ou est-ce que vous êtes prêt et prête à accueillir la différence comme quelque chose de beau, de renouvelant, de plaisant, pourquoi pas, à Dieu? Personnellement, j'ai ma réponse. Et vous?
Qui a mesuré les océans? Qui a compté les jours de demain? Rois et nations tremblent à sa voix. La création l'exalte avec joie.
Prosterné à toi. À quel Dieu te comparer, Seigneur, toi qui effaces la faute, qui pardonne la révolte du reste de ton peuple qui a survécu? Ta colère ne dure pas toujours, car tu prends plaisir à nous montrer ta bonté. De nouveau, tu nous manifesteras ton amour, tu ne tiendras pas compte de nos fautes, tu jetteras nos péchés au fond de la mer. Tu manifesteras ta fidélité aux descendants de Jacob et ta bonté aux descendants d'Abraham, comme tu l'as promis autrefois à nos ancêtres. Ces paroles du prophète Michée se sont réalisées en Jésus-Christ, mort à la croix, pour prendre sur lui nos fautes. Dès lors, restons centrés sur lui, demandons-lui son esprit pour vivre selon ses désirs et pour ranimer notre foi en toutes circonstances. que la richesse de Dieu est immense, que sa sagesse et sa connaissance sont profondes. Qui expliquerait ses décisions? Qui comprendrait ses projets? Comme le déclare l'Écriture, qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a pu être son conseiller? Qui lui a donné le premier quelque chose pour recevoir de lui un paiement en retour? Car tout vient de lui, tout existe par lui, tout est pour lui. À Dieu soit la gloire pour toujours. Amen. Frères et sœurs, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous invite à vous offrir vous-même en sacrifice vivant qui appartient à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte conforme à la parole de Dieu. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez-vous transformer et vous donner, laissez-le Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous discernerez alors ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait.
Je chanterai louange à son nom. Je chanterai gloire à l'éternel. Je chanterai louange.
je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom.
Je vais prier pour les enfants qui vont pouvoir rejoindre leur groupe. Seigneur, je te remets les enfants et les jeunes du caté ce dimanche. Je te prie qu'ils soient bénis, qu'ils puissent avoir un temps précieux avec toi, Seigneur. Je te remercie pour Rebecca, Chantal et Kevin, les moniteurs et monitrices qui donnent de leur temps, de leur énergie pour toi, pour les enfants, pour ton royaume de Dieu. Au nom de Jésus, amen.
Bonjour à chacun, à chacune, heureux de vous retrouver ce matin. Elles ne sont pas là, mais j'aimerais juste souhaiter de très bons voeux à Camille et Chloé Loresch qui fêtent leurs 20 ans aujourd'hui. Si vous êtes de l'autre côté de l'écran, Camille et Chloé, très bel anniversaire à vous et une belle nouvelle année de vie. Peut-être c'est la première fois que vous êtes là ce matin, ou une des premières fois. Depuis quelques mois maintenant, nous utilisons une application qui s'appelle Slido, qui est vraiment toute simple d'utilisation, il n'y a pas besoin de la télécharger. C'est une application qui nous permet, après le temps de prédication, d'avoir un petit moment de questions-réponses. Vous pouvez, sur cette application, en renseignant le numéro qui est indiqué ici, et qui apparaîtra encore sur les autres slides, vous pouvez poser vos questions ou voter pour les questions qui vous semblent à vous les plus pertinentes. Et puis on prend un petit moment après la prédication, enfin après la scène ce matin, pour essayer d'y répondre. Cher Seigneur, je te remercie pour ce temps que nous pouvons prendre ensemble pour plonger nos regards dans ta parole qui est vérité, qui est souffle pour nous. Je te prie de nous aider à t'écouter, de nous aider à te recevoir, de nous aider à recevoir tes encouragements. Seigneur, par ton Saint-Esprit, visite-nous encore ce matin. Nous nous attendons à toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous allons voir l'histoire d'une rencontre entre deux hommes. Une rencontre qui a profondément changé l'histoire du monde. Jusqu'à nous ce matin. Au départ, il y a 50 kilomètres qui séparent ces deux hommes. C'est pas mal, 50 kilomètres. À une époque où il n'y a pas de contournement, il n'y a pas de métro, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de vélo. C'est pas mal, 50 kilomètres. Mais nous savons aussi qu'il y a des distances encore plus grandes que 50 kilomètres à pied. Des distances culturelles, des distances cultuelles, religieuses, des distances renforcées même par la religion, renforcées par les crispations, renforcées par le manque de remise en question des distances qui séparent facilement les hommes et les femmes. Il y a des moments dans l'histoire où il y a besoin d'une profonde réformation. Et le texte que nous allons évoquer ce matin, c'est une réformation. Et en même temps, aujourd'hui, nous fêtons, ça tombe bien, je n'ai pas fait exprès, nous fêtons, nous qui sommes de tradition réformée, issus de la réforme, nous fêtons aujourd'hui le dimanche de la réformation. Alors, on n'en parle pas beaucoup hein, dans nos églises évangéliques, mais dans la tradition réformée protestante de laquelle nous sommes, cette date, aujourd'hui, elle est super importante, le dimanche de la réformation. 31 octobre 1517, le début de la réforme, les 95 thèses de Luther affichées à Wittenberg, 95 thèses sur les vertus de l'indulgence. Puis après lui, il y aura Zwingli. Et puis pour nous, à Genève, Jean Calvin, quand même un peu marqué notre histoire. Une profonde réformation. De nos jours, on n'aime pas trop les auteurs qui se répètent. Harlan Coben, si tu m'entends. Vous savez, ces auteurs, tu as l'impression, tu as lu un livre, tu les as tous lus. Enfin, généralement, tu repères ça au deuxième. C'est toujours la même tension, le même scénario, à peu de choses près, la même fin. De nos jours, on n'aime pas trop ces auteurs qui se répètent. Mais ce n'était pas comme ça du temps des apôtres. Dans le livre des Actes, par exemple, Luc raconte trois fois la conversion de Saul de Tarse, dans le même bouquin. Trois fois. Et puis, Luc raconte deux fois la rencontre entre Pierre et Corneille. Ces deux hommes que tout sépare. Pourquoi il raconte deux fois cette histoire? Pourquoi on raconte deux fois la même histoire? Pour que ça rentre? Parce qu'elle est importante. Pour souligner les choses, pour dire « arrêtez-vous les gars, on va dire les choses différemment deux fois, mais faites gaffe, là au milieu, il y a un truc important, on veut le souligner, on veut prouver que c'est juste. » C'est pour ça qu'on raconte deux fois la même histoire, ou trois fois la conversion de Saul de Tarse. Elle est racontée cinq fois dans la Bible, mais trois fois dans les Actes. Alors Pierre, on le connaît. En tout cas, on a l'impression de bien le connaître. C'est un des 12 apôtres, c'est même un peu le porte-parole des 12. On dirait un fort gueule. Quand il y a un truc à dire, il le dit, quoi. Puis pas toujours avant d'avoir réfléchi. Mais c'est pas juste un fort gueule. Pierre, c'est celui qui, le jour de la Pentecôte, a ouvert la porte du royaume de Dieu à plus de 3000 juifs. Pas mal, hein? Comme réveil après une prédication. 3000 juifs qui ont entendu sa prédication et qui, après la prédication, se sont convertis à Jésus-Christ. 3000, ça c'est Pierre. Quelques jours plus tard, rebelote, il ouvre les portes de l'église aux demi-frères des Juifs, mais quand même des demi-frères ennemis, les Samaritains. Et pareil, ils se convertissent en masse et ils rentrent dans l'église. Ça, c'est Pierre. Bien sûr, on va dire avec raison que Dieu avait préparé le terrain et que les auditoires de Pierre étaient des auditoires mûrs, parce que ça, c'est son affaire à Dieu, en fait. C'est Dieu qui gère la préparation des cœurs. Mais Pierre était de la partie et engagé à fond. Et là, dans le passage qu'on va lire tout à l'heure, Pierre va rencontrer un officier de l'armée romaine, prénommé Corneille. Cet officier, on l'appelle dans le texte un centurion, parce qu'il commandait jusqu'à son soldat, centurion. Et son unité de 100 soldats faisait partie d'un régiment assez prestigieux dont Luc va aller jusqu'à citer le nom, ce qui permettra plus tard au grand historien Flavius Joseph d'authentifier ce récit. Ce régiment, il est composé non pas de soldats qui sont recrutés vaguement dans les provinces romaines, mais il est composé d'hommes qui sont venus d'Italie et de Rome même. C'est un régiment important. Et ils sont en garnison à Césarée. Césarée, c'est le siège du gouverneur. Corneille, donc, le chef de ces 100 hommes, ce n'est pas tout à fait un officier général supérieur, mais c'est quand même un officier très honorable, très honorable. Et puis Corneille, il s'est beaucoup rapproché de la religion juive. Le texte nous dit que Corneille adore Dieu. Étonnant, hein ? Il n'adore pas les divinités romaines ou les divinités grecques traditionnelles, mais il adore Dieu, le seul, l'unique. Le texte nous dit qu'il pratique des prières rituelles à heure fixe, comme tout bon juif qui se respecte. Il donne de l'argent aux pauvres. Le texte nous dit que c'est un homme droit et qu'il est estimé de la population. Et malgré tout ça, malgré qu'il soit droit, qu'il craigne Dieu, qu'il fasse des bonnes œuvres, il lui manque quelque chose. Et c'est quoi qui lui manque tant ? C'est ce que nous allons voir maintenant en lisant le passage en Actes 10, 24 à 48. Actes 10, 24 à 48.
Le jour suivant, il arriva à Césarée. Corneille les attendait avec des membres de sa parenté et des amis intimes qu'il avait invités. Au moment où Pierre allait entrer, Corneille vint à sa rencontre et se prosterna à ses pieds pour le saluer. Mais Pierre le releva en lui disant « Lève-toi, car je ne suis qu'un être humain tout comme toi. » Puis, tout en continuant à en parler avec Corneille, il entra dans la maison où il trouva de nombreuses personnes réunies. Il leur dit « Vous savez qu'un juif n'est pas autorisé par sa religion à fréquenter un étranger ou à entrer dans sa maison. Mais Dieu m'a montré que je ne devais considérer personne comme impur ou indigne d'être fréquenté. C'est pourquoi, quand vous m'avez appelé, je suis venu sans faire d'objection. J'aimerais donc savoir pourquoi vous m'avez fait venir. » Corneille répondit, « Il y a 3 jours exactement, à 3 heures de l'après-midi, je priais chez moi. Tout à coup, un homme aux vêtements resplendissants se trouva devant moi et me dit, « Corneille, Dieu a entendu ta prière et il s'est souvenu de l'aide que tu as apportée aux pauvres. Envoie donc quelqu'un à Jaffa pour en faire venir Simon, surnommé Pierre. Il loge dans la maison d'un autre Simon, un ouvrier du cuir qui habite au bord de la mer. J'ai immédiatement envoyé des gens te chercher, et tu as bien voulu venir. Maintenant, nous sommes tous ici devant Dieu pour écouter tout ce que le Seigneur t'a chargé de dire. » Pierre prit alors la parole. « Maintenant, je comprends vraiment que Dieu n'avantage personne. Tout être humain dans le monde qui reconnaît son autorité et qui fait ce qui est juste, lui est agréable. » Il envoyait ce message au peuple d'Israël, la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous les êtres humains. Vous savez ce qui est arrivé d'abord en Galilée, puis dans toute la Judée, après que Jean a annoncé la bonne nouvelle et baptisé. Vous savez comment Dieu a choisi Jésus de Nazareth pour son service et lui a accordé la puissance de l'Esprit-Saint. Vous savez aussi comment Jésus a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. On l'a fait mourir en le pendant au bois de la croix. Mais Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné d'apparaître, non à tout le peuple, mais à nous que Dieu a choisi d'avance comme témoins. Nous avons mangé et bu avec lui, après que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il nous a commandé d'annoncer la bonne nouvelle au peuple et d'attester qu'il est celui que Dieu a établi pour juger les vivants et les morts. Tous les prophètes ont témoigné à son propos en disant que toute personne qui croit en lui reçoit le pardon de ses péchés par le pouvoir de son nom. Pendant que Pierre parlait encore, l'Esprit-Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient son discours. Les croyants d'origine juive qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de constater que l'Esprit Saint, donné par Dieu, se répandait aussi sur ceux qui ne sont pas juifs. En effet, ils les entendaient parler en langue inconnue et louer la grandeur de Dieu. Pierre dit alors, « Pourrait-on empêcher ces gens d'être baptisés d'eau, maintenant qu'ils ont reçu l'Esprit Saint aussi bien que nous ?» Et il ordonna de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Ils lui demandèrent alors de rester quelques jours avec eux.
Merci. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. D'après ce que je comprends de ce texte, cette rencontre-là, entre deux hommes que tout sépare, cette rencontre-là, c'est Dieu qui l'a préparée. Du côté de Corneille, nous trouvons la venue d'un ange, ou en tout cas la vision d'un ange, ce qui vient signaler l'intervention de Dieu. Ce n'est pas une chose qui arrive si souvent, même dans la Bible, l'apparition d'un ange. Mais à chaque fois que nous avons l'apparition d'un ange dans la Bible, à chaque fois, c'est qu'il y a quelque chose de spécial qui se prépare. Pour annoncer à Marie qu'elle portera le Messie, par exemple. Pour annoncer aux bergers où ils le trouveront, ce Messie. Pour dire à l'apôtre Paul de passer enfin en Europe pour annoncer l'évangile du salut. La plupart du temps, nous autres croyants, nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons dans l'ordinaire de la vie, dans la simplicité et la complexité de la vie, sans ange, la plupart du temps. Mais ici, dans cette histoire, sans la venue de l'ange, rien n'aurait fait germer chez Corneille l'idée d'aller chercher Pierre à 50 km de là. Pierre qui logeait au bord de la mer à de grosses journées de Césarée. Il fallait donc une intervention spéciale de Dieu, et cette intervention spéciale de Dieu dans cette histoire, c'est la venue d'un ange qui convainc Corneille qu'il faut aller chercher Pierre. Maintenant, du côté de Pierre, l'intervention de Dieu, elle est au moins tout aussi remarquable. C'est dans les versets qui précèdent, les versets 9 à 16. Peut-être vous vous en souvenez, on a vu ça il y a 15 jours. C'est l'heure du déjeuner, et Pierre, à ce moment-là, a la vision d'une bâche qui descend du ciel et qui est remplie de toutes sortes d'animaux. Ce qu'un bon juif avait le droit de manger et ce qu'un bon juif ne pouvait pas manger. Et là, il y a une voix, celle de Dieu, qui dit à Pierre, « Pierre, il faut que tu manges de tout. » Waouh ! Et Pierre, qui est lié par la tradition, Pierre qui oublie l'enseignement de Jésus, Pierre proteste. Non, Seigneur, non, non, non. Je n'ai jamais rien mangé d'impur. Verset 14. Et à son tour, Dieu proteste. Ce n'est pas à toi, Pierre, d'appeler impur ce que Dieu a appelé pur. Ce n'est pas toi qui définis les trucs. Pédagogie des aliments purs et impurs de l'ancienne alliance, elle était arrivée à son terme dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Et Christ, dit Marc 7 au verset 15 à 19, Christ a déclaré tous les aliments purs. Alors reviens pas en arrière, Pierre. C'était quoi le sens de la vision ? Savoir ce qu'on a le droit de mettre dans son assiette. Mais non. Le royaume de Dieu, c'est bien plus que le manger et le boire. Romains 14, verset 17. L'enjeu, c'était de faire comprendre à Pierre que les non-juifs, les personnes inférieures et impures pour un bon juif, ces personnes non-juives, qui ne correspondaient pas aux critères de la religion, ces personnes étaient profondément aimées de Dieu. Et que Pierre avait le droit de les fréquenter, qu'il avait même le devoir de conduire leur inclusion dans le peuple de Dieu. C'est pour cela qu'à Jaffa, au bord de la mer, Pierre fait entrer les messagers dans sa propre maison. C'est pour cela qu'il fait ensuite le trajet, les 50 kilomètres, avec eux jusqu'à Césarée. C'est pour cela qu'il n'hésite pas un instant, finalement, à entrer chez Corneille, le païen, et qu'il lui dit au verset 28, « Dieu m'a fait comprendre qu'il ne faut considérer aucun être humain comme impur ou indigne d'être fréquenté. » Malgré l'ordre explicite de Jésus dans les évangiles, cette ouverture aux païens, elle n'allait pas de soi. Il a fallu que Dieu insiste au point de devoir envoyer une vision foudroyante et choquante à Pierre, au point d'envoyer un ange chez Corneille. Il a fallu que Dieu insiste. Et c'est ainsi que Corneille, sa famille, ses amis intimes, son personnel, deviennent les premiers non-juifs à entendre l'évangile et à être inclus dans le peuple de Dieu. Une profonde réformation. Qu'est-ce qu'ils ont entendu, cette équipe, au juste ? Aimez-vous les uns les autres, comme je l'ai vu inscrit sur un foyer d'accueil de l'armée du salut ? Qu'est-ce qu'ils ont entendu ? Un truc du style, ouais, alors maintenant que vous êtes dans le peuple de Dieu, faut vous sortir les pouces, les gars. Faites-en plus, toujours plus. Allez, cravachez, donnez, engagez-vous, comptez pas, laissez votre vie. Comme je l'entends trop souvent. Ou pour le dire autrement, c'est quoi le message de l'évangile ? C'est quoi la véritable réforme ? C'est quoi le cœur de l'évangile ? Alors on va trouver différentes manières de le résumer dans la Bible. Mais pour faire très court, le moins que l'on puisse dire, c'est que l'évangile est centré sur Jésus-Christ. Et à ce sujet, il semble que Corneille disposait déjà de quelques éléments. Versets 37 et 38 que je relis. Vous savez, dit Pierre, ce qui s'est passé a commencé par la Galilée. Donc vous savez. Puis dans toute la Judée, après que Jean a appelé les foules à se faire baptiser. Ensuite, Dieu a oint Jésus de Nazareth. Il l'a choisi en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. Et celui-ci a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Vous savez. Vous avez déjà commencé à le comprendre. Au minimum, vous avez quelque chose qui s'apparente à une intuition. Corneille avait certainement entendu parler du ministère de Jean-Baptiste. Il avait entendu parler des miracles de Jésus. Et Pierre confirme, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait. Et les apôtres sont surtout témoins de la mort et de la résurrection de Jésus. Ils ont même mangé et bu avec lui après sa résurrection à l'occasion d'un super barbecue au bord de la mer. Mais c'est quoi le sens maintenant ? Le sens, il est là au verset 36. Il est le Seigneur de tous les hommes. Il est le Seigneur de tous les hommes. Pas des Juifs seulement, mais de tous les hommes. Pierre ajoute, verset 43, toute personne qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés. Toute personne. Toute personne qui croit en lui. C'est radical. C'est sans distinction. C'est universel. C'est massif. C'est incontournable. La vie, la mort, la résurrection de Jésus proclament qu'il est le Seigneur, le juge des vivants et des morts, et qu'il est le Sauveur, celui qui réconcilie avec Dieu, celui qui nous sort du pétrin, celui qui nous remet en route, celui qui redonne du sens, celui qui donne du pardon, de l'espérance, de la paix. Pour tous et pour toutes, sans mégoter, sans faire de tri entre ce qui nous convient et ne nous convient pas. Toute personne qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés. Mes amis, quand on réfléchit à l'Évangile, si on enlève la mort et la résurrection de Jésus-Christ, il n'y a plus d'évangile. C'est mort. Si nous enlevons le pardon de nos péchés, il n'y a plus de bonne nouvelle. C'est mort. Si nous enlevons la seigneurie de Christ, il n'y a plus d'église. C'est mort. Et c'est ce témoignage-là que Corneille et les siens avaient tellement besoin d'entendre. C'est ce qu'ils ne savaient pas. C'est ce qui leur manquait. L'intuition, ils l'avaient. L'histoire, le récit, ils le connaissaient. Jésus, ils savaient qu'ils avaient fait des miracles. Mais le pardon des péchés, ça, ils ne le savaient pas encore. Ils avaient besoin de la bonne nouvelle, de l'Évangile. Ils avaient besoin de l'Évangile qui change tout. Et puis là, on découvre qu'il leur manquait encore une dernière chose. Le prophète Joël, chapitre 2, verset 28, avait déclaré qu'un jour, Dieu répandrait son esprit sur tout être humain, sur quiconque invoquerait le nom du Seigneur. Pierre, il a vu la prophétie s'accomplir le jour de la Pentecôte, commencer à s'accomplir. Et maintenant, alors qu'il est avec des païens, de chez païens, il est très étonné, Pierre. Il est émerveillé parce qu'il voit cette prophétie de Joël se réaliser sous ses yeux, au bénéfice de ces païens qu'il méprisait profondément il y a encore quelques jours. Le Saint-Esprit vient sur Corneille et les siens, tout comme il est venu sur les premiers disciples juifs. Même cause, mêmes effets. S'ils reçoivent ainsi le Saint-Esprit, c'est qu'ils sont totalement acceptés par Dieu. Ce ne sont pas des croyants de seconde zone. Ce ne sont pas des seconds couteaux que Dieu accueillerait un peu dépité. Ouais, bon, ben, on ne peut pas faire autrement, ils sont là. Pas du tout. Ils font partie du même corps. Ils font partie du même peuple que les Juifs. Le peuple de Dieu. En Christ, par l'Esprit, il y a un seul corps. Une seule Église. Dieu accueille, Dieu bâtit et Dieu rassemble. Le baptême alors de ces nouveaux chrétiens s'impose. Versets 47 et 48. On n'attend pas 116 ans, ils sont baptisés parce qu'ils sont chrétiens. On ne leur demande pas de sortir des papiers d'identité, ils ne doivent pas prouver un parcours, ils ne sont pas attachés à une communauté religieuse en particulier, ils sont baptisés. Parce que par l'Esprit, Dieu dit, vous êtes un. Et par l'eau du baptême, l'Église dit, nous sommes un. Corneille et les siens deviennent donc solidaires des apôtres et de leur message. Pierre et les siens deviennent solidaires de Corneille. C'est ça l'Église, c'est la solidarité. Voilà la famille de Dieu. Voilà l'Église, fondée par des ponts et non pas divisée par des murs. Et c'est que le début, parce que la formation de ces nouveaux croyants doit se faire. Et pendant quelques jours, Pierre et ses amis posent les fondements de la foi avec eux. Et le texte nous dit qu'il montre comment l'Ancien Testament parle de Jésus, en rappelant l'enseignement de Jésus lui-même. C'est un peu le but de nos ateliers bibliques ici. On a cette série sur la personne unique de Jésus. On réfléchit à ça, comment l'Ancien Testament prépare la venue de Jésus, puis après, qu'est-ce qu'il dit Jésus lui-même ? Eh bien, c'est ce que Pierre faisait. La formation de ces nouveaux chrétiens, elle devra se poursuivre, bien sûr, par l'enseignement de la Bible, par la communion fraternelle. Pour Corneille et les siens, ce n'est donc que le début, mais quel début ! Nous verrons une autre fois que pour certains, le dynamitage de la tradition, il était trop dur à accepter. Pierre, il va prendre chair. Il va se faire critiquer pour être allé chez des païens, sans même parler de les avoir baptisés. Et lui-même, Pierre, malgré tout ce qu'il a vécu, à un moment donné, il va de nouveau céder aux traditionalistes, avant d'être repris, et sévèrement, par Paul, et de défendre à nouveau la cause des nouveaux croyants. Vous savez, l'ouverture, c'est pas facile. C'est vachement plus confortable de rester où on est, avec ce qu'on sait, avec ce qu'on maîtrise. On nous reproche parfois, hein, ouais, vous êtes très ouvert, Amérin. C'est facile d'être ouvert. Non, c'est pas facile. L'ouverture, on se frotte les uns aux autres. On s'affine, on essaye de se comprendre, on s'accueille, on s'aime, c'est volontaire. Mais c'est pas facile. La réformation, c'est exigeant. Ça expose. Et parfois, je peux vous en dire beaucoup à ce sujet, il serait beaucoup plus simple de ne pas faire de vagues et de privilégier la tradition. Mais ce dont nous devons nous réjouir ce matin, c'est que ce jour-là, chez le centurion Corneille, l'histoire du monde a basculé. Sans cette rencontre, sans la Pentecôte de Corneille, le message de l'Évangile serait resté cantonné au monde juif. La foi en Jésus le Messie serait restée juste un courant du judaïsme, plus ou moins important, mais rien de plus, un courant, comme il en existe des centaines dans le judaïsme. C'est pour cette raison-là que la rencontre entre Pierre et Corneille prend autant de place dans le livre des Actes. Et devra prendre beaucoup de place dans nos cœurs. Une rencontre que Dieu a préparée, une rencontre centrée sur Jésus-Christ, une rencontre qui débouche sur une nouvelle Pentecôte, l'ouverture au monde. Je conclus. Quand nous, on lit la Bible aujourd'hui, on trouve des événements qui nous sont racontés parce qu'ils sont exceptionnels, et on en trouve aussi qui nous sont racontés pour nous servir d'exemple. Et je crois que la Pentecôte de Corneille est certainement dans le genre des faits exceptionnels qui ont marqué l'histoire du salut, jusqu'à nous, jusqu'à nous. En quittant ce matin cette maison de Césarée, 50 kilomètres de Jaffa, en quittant cette maison où deux hommes que tout séparait se sont retrouvés, nous pouvons nous inspirer, j'espère, du comportement de ces principaux acteurs. Corneille qui cherchait Dieu, qui tâtonnait, puis qui a trouvé. Ils et elles sont où aujourd'hui, les chercheurs de Dieu autour de nous? Ils sont où? Ils prennent quelle forme leurs recherches, leurs questions, leurs espoirs? Est-ce qu'on attend juste qu'ils aient tout compris comme nous? Ou est-ce qu'on arrive à discerner, purée, là, cette voisine, ce collègue, mon cousin, là, il cherche Dieu? Pierre, qui a ouvert son cœur aux hommes de toutes les cultures, nous, aujourd'hui, ce matin, où avons-nous besoin d'ouvrir notre cœur? Quel endroit? C'est où nos résistances? C'est où que nous mettons des mais? Quand on tient à la grâce de Dieu, hein, on tient au salut. Ouais, la grâce de Dieu pour tous. Mais, ils sont où nos mais? Que Dieu doit venir travailler en nous. Pierre qui a été bousculé par Dieu et qui ne s'est pas rebiffé. Elles sont où nos résistances aujourd'hui? Où est-ce que nous, nous avons besoin d'être attendris, de changer de compréhension? Je prie Dieu que nous ne soyons pas de celles et ceux qui résistent quand Dieu leur parle. Engageons-nous à fond pour l'accueil, pour l'évangile de la bonne nouvelle centrée sur Jésus-Christ. Quelque chose, mes amis, qui montre dans notre monde si polarisé la beauté de la grâce radicale de Dieu. Amen. Je laisse l'équipe musicale nous rejoindre. Puissions entonner ensemble un chant. Ce chant nous conduira à la Sainte Cène, puis nous aurons après un temps avec Slido. Je vous invite à vous lever pour chanter le chant rédempteur du monde.
Jésus Christ, Fils de Dieu,
Nous allons avoir maintenant un temps où nous partageons le repas du Seigneur. C'est un moment tellement précieux qui est au cœur de la foi chrétienne. Nous nous souvenons de Jésus-Christ mort et ressuscité. Par l'Esprit et par son œuvre nouvelle, Dieu nous dit « Vous êtes un ». Par l'eau du baptême, et par la scène, l'Église dit « Nous sommes un ».
Je lis dans 1 Corinthiens 10. « C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je vous parle comme à des personnes raisonnables. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissions n'est-elle pas une communion au sang du Christ ? Le pain que nous rompons n'est-il pas une communion au corps du Christ ? Puisqu'il y a un seul pain, nous sommes tous un seul corps, car tous nous participons à cet unique pain.
Nous sommes reconnaissants, Seigneur Jésus, de pouvoir participer à ce repas si fort en symbole. Ton corps brisé, ton sang versé, la réconciliation avec Dieu, la perspective de la vie éternelle, l'Église que tu bâtis assidûment et dont nous faisons partie. Nous nous réjouissons de communier à ton corps et à ton sang, et nous nous réjouissons de la communion que nous avons les uns avec les autres. Fais-nous la grâce de la conserver comme nous voulons conserver vivante au cœur de nos vies l'espérance de te rencontrer un jour. Visite-nous pendant ce temps de scène, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.
Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Voici l'aurore, sors du sommeil. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Après l'heure noire, renaît l'espoir. Éveille-toi. Il a souffert, il s'est livré, sacrifié là sur le bois. Il s'est offert, il a payé, il t'a racheté. Éveille-toi, tu n'es plus seul, mon âme. Tu n'es plus seul, mon âme. Toi qui étais nu, pauvre et aveugle, éveille-toi. Il t'a aimé, mon âme. Il t'a aimé, mon âme. Le Dieu des merveilles, de toi s'émerveille. Réveille-toi. Son corps blessé, son cœur brisé, sa vie ôtée. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Hors des ténèbres, jaillit la lumière, tout est accompli, tu vis en moi. Le tombeau désert, la pierre est roulée, Christ ressuscité, tu vis. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. La mort a perdu, il a vaincu. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Viens à ses pieds, viens l'adorer, éveille-toi.
Quelques instants avec Slido et quatre très bonnes questions. Merci. Merci pour les votes aussi. Hein. Ce n'est pas la Starac, mais ça marche pas mal. Je vous rappelle que les questions sont anonymes, donc je ne sais pas qui les pose, et je ne peux pas le savoir. Dans quel domaine est-ce qu'on peut plus s'ouvrir ? Je vois trois entrées possibles. La première, en fait, ce serait de vous donner la parole pour que vous me disiez, vous, dans quel domaine on devrait plus s'ouvrir. Une troisième piste, c'est de faire une liste. Elle ne sera forcément pas exhaustive, mais je pourrais faire une liste, moi, de domaines dans lesquels je pense nous devrions, en tant qu'évangéliques, plus nous ouvrir. Et puis, il y a une version simple et courte qui est de dire ben, il faut identifier les domaines où nous sommes fermés. Et si nous identifions les domaines où nous sommes fermés, où on nous considère comme fermés, parce que des fois, on dit les évangéliques sont comme ça, mais on ne nous connaît pas vraiment, venez voir dedans. Mais si on arrive à identifier les domaines dans lesquels nous avons des résistances, eh ben on saura là où il faut s'ouvrir. Et vous avez des idées, vous ? Dans quel domaine on devrait s'ouvrir ? Par exemple, pas facile, hein, parce que ça nous renvoie à tellement de choses, et puis nous qui sommes plutôt bien installés, il y a un peu de culpabilité, on ne sait pas comment s'y prendre, les marginaux, merci, par exemple. Jean-Pierre. D'une autre culture. Merci. À entendre ça, Thierry, pour notre planning des cultes, merci. Quelqu'un d'une autre culture, c'est pas facile d'avoir des prédicateurs, hélas. Et d'une autre culture, ça l'est peut-être encore plus difficile, mais oui, merci. C'est une très bonne remarque. Merci. Merci. Waouh. Autre idée. Ok. Moi, je vous invite à réfléchir. Là où nous sommes fermés, moi je sais à peu près là où je suis fermé et là où j'ai besoin que Dieu me visite pour être un peu plus ouvert. Deuxième question, remarque plutôt, quand on entend ce message, alors j'espère que vous parlez de celui d'Acte 10, pas de son commentaire, on se demande pourquoi les Juifs d'aujourd'hui restent coincés dans l'Ancien Testament en ne se mélangeant pas et en restant fermés les traditions, en gardant, je pense, leurs traditions fermées. Bonne question, hein ? Ouais. Alors, c'est toujours facile de regarder dehors. De nouveau, la tentation, elle est trop grande pour moi de dire... Oui, alors effectivement, on peut dire, hein, les Juifs, il y a des trucs, vraiment, ils ne comprennent pas. Et on doit prier pour eux, peut-être s'engager dans des missions, enfin voilà, je ne sais pas. C'est compliqué, mais moi ce que je me dis, c'est que si eux, qui sont les premiers récipiendaires, receveurs de la parole de Dieu, restent à certains sujets tellement coincés, est-ce que moi je ne le suis pas autant qu'eux ? En plus avec la deuxième partie, qu'est le Nouveau Testament ? Mais oui, ça me fait de la peine, parce que c'est le peuple qui a amené le Messie, c'est celui qui a une culture biblique la plus complète possible. Puis en même temps, on va entendre parler de juifs messianiques, des fois en masse, qui se tournent vers Jésus. Donc ça existe aussi. Mais c'est quand même le problème des systèmes religieux. Les systèmes religieux, quels qu'ils soient, y compris le nôtre, c'est un système qui peut enfermer. Il faut veiller. J'ai entendu que Dieu ne peut pas se contredire. Et si on entend un ange tordre la parole, c'est qu'il n'est pas de Dieu. Comment Pierre reconnaît que c'est Dieu ? Alors, je pense qu'effectivement, aucun envoyé de la parole peut, doit tordre la parole. Sinon, Dieu ne se contredit pas, ça, c'est certain. Mais comment est-ce que Pierre reconnaît que c'est Dieu ? Alors, je pense qu'il y a une accumulation d'indices dans le texte. Reprenez-le chez vous, ça vaut le coup. Il y a une accumulation d'indices. D'abord, la vision, c'est pas qu'une fois, c'est pas que deux fois, c'est trois fois. Et encore une fois, la répétition, elle est là pour dire il y a un truc important. Ensuite, c'est pas un ange qui parle à Pierre, c'est une voix qui vient du ciel. Moi, j'interprète, mais c'est que de l'interprétation, comme la voix de Dieu qui dit à Pierre, Pierre, cette fois, tu peux plus t'arrêter là. Et ce n'est pas un ange, il n'y a pas d'intermédiaire. Et puis ensuite, on lit qu'après la vision, Pierre y prend du temps pour la comprendre, pour l'interpréter. Il n'y a pas une interprétation immédiate et il n'y a pas une interprétation extérieure. C'est lui qui l'a fait. Et il l'a fait, dit-il, au regard de ce que Jésus a enseigné. Donc son interprétation, et on peut être sûr qu'il ne se trompe pas, son interprétation, elle se fait à la suite de Jésus. Ben oui, il avait été quand même avec lui trois ans et demi. Puis il y avait une dernière question. La Pentecôte, pourquoi elle ne correspond pas toujours entre juifs et chrétiens ? Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. Mais la Pentecôte initiale d'Acte 2, c'est un moment donné où les juifs sont rassemblés pour une grande fête traditionnelle dans la tradition juive, dans le calendrier juif, cultuel, et Dieu choisit d'intervenir dans cette grande fête et de lui redonner un sens nouveau. Depuis là, normalement, pour le peuple juif, la Pentecôte, ce n'est plus la fête initiale, c'est la fête du don de l'Esprit. Et c'est ce que nous retenons, nous, comme chrétiens évangéliques. On ne fait pas des cabanes, on ne fait pas des moissons. On fait des moissons, mais on ne fait pas une fête des moissons, on ne fait pas une fête des cabanes. Mais on fête la Pentecôte qui est la venue du Saint-Esprit. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais on peut toujours se voir en aparté. Je m'arrête là pour les bonnes questions. Et puis, pour ce qui me concerne, on se retrouve dans 3 semaines. Pour la suite et la fin de cette partie du survol du livre des Actes.
Pendant les annonces, on va pouvoir passer l'offrande. Merci. Pour rappel, donnez comme vous pouvez. Comme vous voulez. Voilà. Quelques petites annonces à faire. Donc, ce mardi soir, à 20h, atelier biblique avec pour thème le royaume de Dieu, c'est pour aujourd'hui ou pour demain. Le jour d'après, mercredi, à 17h, rencontre de prière communautaire. Et enfin, dimanche prochain, pour information, Philippe sera absent. Il est en Thaïlande, comme il vient de le dire, pour quelques semaines, du 8 au 20 novembre, pour animer la conférence retraite annuelle d'une organisation chrétienne. Et donc, c'est Myriam Matet de l'Église de la Fraternelle à Nyon qui assurera la prédication.
Et une belle autre nouvelle, puisque Elina et Adrien viennent d'accueillir une deuxième petite fille le 31 octobre, donc elle est toute neuve. Elle s'appelle Noélie et sa grande sœur, qui doit être très fière, elle s'appelle Isia, elle est dans les bras de sa grand-maman. Salut Isia, t'es une petite sœur? Trop cool, il va y avoir de la vie.
Et sur cette bonne nouvelle, je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Je lis dans Matthieu 9, versets 10 à 13. « Or, comme il était à table dans sa maison, il arriva que beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs étaient venus prendre place avec Jésus et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs ?» Mais Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez donc apprendre ce que signifie « c'est la miséricorde que je veux, non le sacrifice, car je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. » Sur ce texte, bon dimanche à chacun et chacune.
Dieu si fidèle, sais-tu qu'il pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés, mais il faut que tu viennes à lui te